Cette semaine à l'émission, Marie-Josée Girard nous révèle ce qui l'a convaincu de se jeter corps et âme dans un chemin de vie assez hors norme. Et le père Édouard Chatov nous parle d'une prophétie qui est l'un des secrets les mieux gardés de l'Église catholique. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la vie consacrée. Oui, c'est étonnant quand même. Bonjour Simon Lessard.
Allô Antoine Malenfant.
Hey, comment vas-tu?
Très content de te retrouver. Très content d'être en présence de Père Édouard. Ça fait longtemps qu'on t'avait reçu à l'émission.
Tout à fait. Tout à fait. C'est toujours une grande joie.
Édouard qui habite au bout de la rue, on a nos studios tout près du centre culturel Le Montmartre, où tu es responsable de la programmation.
Oui, tout à fait. C'est maintenant l'axe Foi et Culture, avenue Chanoine-Morel.
Un axe de 150 mètres.
Oui. Il y a l'axe du mal, là, quelque part ailleurs dans le monde, et ici, c'est l'axe...
C'est l'axe du bien.
L'axe du bien, on va se le dire. Édouard Chatov, tu as, dans les dernières années, sillonné le Québec au grand complet, même au-delà, à la rencontre souvent de communautés religieuses. Tu as donné souvent des retraites chez des...
Je continue à donner, donc pour les communautés religieuses, pour les paroisses, pour les mouvements de la vie consacrée ou l'Institut séculier. Donc c'est vraiment la fréquentation de différentes personnes, de différents âges. J'ai rencontré aussi pour une rencontre la communauté d'Emmanuel, donc la communauté d'Emmanuel, pas la paroisse en tant que telle. Et donc ça permet aussi de regarder c'est quoi la consécration à Dieu dans le monde d'aujourd'hui et quelles sont les questions qui sont posées et comment plutôt on peut méditer, réfléchir et vivre les réponses possibles et imaginables.
Parce que, bon, dans l'Église catholique, ça a l'air pour bien des gens d'un espèce de gros bloc monolithique, mais il y a divers courants spirituels dans l'Église. Il y a diverses écoles de pensée, de vie spirituelle, et c'est ce que tu as constaté aussi, j'imagine, mais malgré tout, des défis communs à tous ceux qui décident de s'engager à fond dans la vie consacrée.
Les défis sont très communs, hein, disons, j'ai envie de dire très communs. Bon, les défis sont communs. La grande, je pense, difficulté, qu'on ne vit pas ça de la même manière et certains se voient entièrement consacrés à Dieu, l'autre entièrement engagé dans le monde tout en ayant un lien avec Dieu. Et il y a d'autres qui sont en certain lien avec Dieu tout en étant engagé dans le monde ou tout en étant engagé dans le monde ayant un certain lien avec Dieu.
Et ça sera d'ailleurs ça, je pense, l'objet de ta chronique un peu plus tard dans l'émission, ce rapport au monde. Qui est aussi une question pour tous les baptisés, mais d'une manière peut-être plus aiguë.
Et je pense que c'est ce que tu as évoqué dans l'introduction. En fait, la plus grande prophétie, c'est la vie religieuse et la vie consacrée, parce que dans tous les documents et la réflexion de l'Église, on dit toujours que c'est un signe prophétique qui doit apparaître dans le monde. La vraie question de quoi est-ce que nous sommes des prophètes?
Simon?
J'écoutais Édouard Antoine, puis tu sais, il parle de signes prophétiques. Ouais. Moi, je me rends compte que de plus en plus que la vie religieuse, donc que ce soit religieuse, moine, moniale, laïque, consacrée, ces gens-là, ils interpellent, ils étonnent, ils attirent même les non-croyants.
Ben oui.
Dès qu'il y a un documentaire qui sort sur un monastère, on voit que c'est très populaire. Et dernièrement, j'étais au café avec un ami religieux qui portait comme son habit au complet en public. Et puis, une jeune femme qui semblait pas très croyante dans la vingtaine vient de voir, lui pose quelques questions sur son mode de vie et puis décrit un peu, bon, j'ai pas de cellulaire, c'est une vie centrée sur la prière. Puis sa première réaction très positive à cette jeune femme qui semblait pas avoir la foi, dire « Oh, ça doit être merveilleux, tu sais, t'es pas dans la surconsommation, la surconnectivité, tout va trop vite, plus de silence, plus de temps, plus de vie intérieure. » Donc, je sens que cette mode de vie-là, interpelle les jeunes générations encore aujourd'hui.
Clairement. Merci, Simon, pour cette anecdote. Et ça fait très bien le pont avec... On a la joie aujourd'hui de recevoir à l'émission quelqu'un qui a fait le choix de se consacrer complètement. C'est une laïque consacrée. Elle s'appelle Marie-Josée Girard. Et accueillons-la tout de suite. Marie-Josée Girard, bonjour. bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde.
Bonjour Antoine, allô tout le monde.
Pas trop nerveuse, ça va?
Un petit peu, mais je pense que c'est normal quand on s'apprête à partager un peu le cœur de notre vie.
on va déballer quelques éléments, certainement. Tu es célibataire consacré, laïque consacré, les deux se disent?
Oui, exactement, même le terme exact, c'est célibataire pour le royaume des cieux. Donc, c'est un terme assez
spécifique.
C'est
beau, c'est poétique, j'aime ça.
Oui, c'est vrai, effectivement, ça pointe quelque chose du ciel, finalement.
Alors, célibataire pour le royaume des cieux, au sein de la communauté de l'Emmanuel, ici à Québec, on peut dire ça aussi?
Oui, exactement. Communauté qui rassemble des couples, des célibataires, des jeunes, des moins jeunes, des prêtres et des personnes qui font le choix aussi, comme moi, d'un célibat consacré là, pour le Seigneur. Ouais.
Alors, c'est un choix... tu es dans cet état de vie-là depuis 2022, je pense.
Oui.
Mais c'est une décision qui a été longuement mûrie. Comment on en arrive là?
Oui, ça a été longuement mûri, mais aussi, je vois que c'est ça, le Seigneur avait préparé ça. Depuis que je suis tout petite, en fait, j'ai grandi dans une famille croyante, pratiquante. Okay. Mes parents priaient un peu en famille quand on était jeunes. Et puis, je me souviens que Jésus, c'était mon ami. J'aimais ça, aller chanter à l'église avec mes amis. Puis, il y a vraiment un moment aussi où, quand j'avais, je sais pas, 5 ans, 6 ans, je faisais du casse-tête. J'ai vraiment un souvenir précis. Là, j'étais dans mon salon, je faisais du casse-tête. J'avais une petite radio cassette que je mettais en... en repeat, je faisais rejouer sans cesse une chanson de Robert Lebel dont les paroles c'est « Emmène-moi sur ton bateau, je voudrais partir avec toi. Emmène-moi, oui Jésus, j'embarque avec toi. » Puis je me souviens de ce moment-là parce que ça me dit que vraiment, oui, à l'intérieur de moi, je sais que quand j'étais jeune, je voulais suivre Jésus. T'sais. J'avais décidé ça, que oui, moi je suivrais Jésus.
Et comme une aventure, hein, ce que dit cette chanson-là, c'est on part, on lève les voiles puis on y va.
Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Puis en grandissant, tu sais, je me souviens que, ben, parlant d'aventure, ma marraine était agent de bord. Elle faisait plein de voyages. Ça m'interpellait. Je me disais, waouh, moi aussi, je veux vivre des aventures. Puis j'ai pensé, je me souviens qu'il y a vraiment un moment où j'ai voulu être religieuse, là, vraiment. Ça, je me souviens d'avoir un moment où, dans mon enfance, j'ai voulu l'être, mais aussi je voulais voyager, je voulais être médecin sans frontières même. En tout cas, j'avais plein de projets. puis, c'est ça, en grandissant, ben oui, j'ai continué de prier un certain temps, mais en fait, je me suis rapidement confrontée au jugement des autres du fait que j'avais finalement peu d'amis qui étaient croyants aussi, puis je trouvais que j'étais un peu différente des autres finalement, que c'était pas très à la mode non plus hein, d'être croyant.
À l'adolescence, spécialement.
Oui, c'est ça, exactement. Même un peu avant, tu sais, je me souviens que j'ai commencé à me juger, à juger ma foi, à cacher un peu ça, puis finalement à vouloir faire un peu comme tout le monde là, au secondaire. Puis, tu sais, j'ai continué de suivre un peu, d'aller à la messe de temps en temps pour faire plaisir à mes parents. Je sentais qu'il y avait quand même une joie, en fait, dans la famille là, le dimanche quand on revenait de la messe. Là. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, marquée, touchée, cette joie-là. Mais c'est ça, tu sais, au secondaire, tu sais, j'avais toutes sortes de projets de danse, j'aimais ça les arts, tu sais, puis bon, j'avais mis le Seigneur de côté, puis...
T'écoutais plus en boucle la petite chanson, là.
Non,
t'avais changé de cassette,
ça. Exactement, ouais, ouais, pas mal de cassettes, c'était plutôt même les CD, là, tu sais, à l'époque.
Il y avait plus de cassettes.
C'est ça. Puis, c'est ça, puis en fait, moi, je viens de la campagne, je viens du Lac-Saint-Jean, un petit village, et puis je suis déménagée à Québec pour venir au cégep, et puis pendant ces années-là, tu sais, j'avais des amis, je trouvais que j'avais une belle vie, c'est comme si je m'attendais à ce qu'à ce moment-là, dans ma vie, je m'attendais de que ça allait être la période de ma vie où j'allais avoir tout ce dont je rêvais, ou tu sais, ça allait être une période vraiment heureuse, tu sais, ce début-là de la vie adulte. Puis,
la liberté, l'autonomie,
oui,
la découverte.
Exactement, ouais. Les projets. Tu sais, j'aimais ça. Moi, j'ai étudié en intervention en délinquance, puis j'aimais beaucoup ça. J'avais commencé à faire un peu de bénévolat aussi. Puis... j'avais un copain aussi depuis quasiment, 4 ans. Puis... mais il me revenait cette soif-là de plus, en fait. Je me suis dit, coudonc, il me semble que la vie, c'est pas juste ça, ça se peut pas, là, tu sais. J'avais soif de plus, en fait. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me reposer la question un peu de la foi que mes parents m'avaient transmise. Il y avait toujours ma mère qui disait, ah, tu sais, à Québec, il y a plein d'affaires, tel groupe, la famille Myriam, il y a telle communauté. Bon, puis à un moment donné, elle m'a parlé...
Elle parlait des perches.
Là. Oui, c'est ça. Puis moi, ça passait par une oreille. Ça ressortait pas complètement par l'autre. Mais à un moment donné, justement... avec ma sœur, on s'est dit, ah, ben, on pourrait essayer d'aller à la messe en espagnol. J'habitais avec ma sœur à l'époque. On parlait toutes les deux un peu espagnol. On s'est dit, ah, on va pratiquer notre espagnol, on va rencontrer des beaux petits latinos, ça va être plaisant, il va y avoir une belle ambiance. Fait qu'on est, allé à la messe en espagnol. Après ça, on s'est dit, ah, ben, on pourrait aller à la messe des jeunes à Saint-Thomas d'Aquin, là, dont ma mère m'avait parlé.
C'est correct de faire le bien pour des mauvaises raisons. On en parlera peut-être tantôt. Là.
Oui, peut-être, oui.
En tout cas, toujours est-il que je suis allée à la messe finalement, puis en arrivant à Saint-Thomas d'Aquin, ben j'ai été touchée par l'accueil, de voir ce que les jeunes, il y avait des jeunes comme moi, puis qui avaient l'air de vivre quelque chose, en fait. Puis je me suis dit, ah ouais, ça m'interpelle. Et puis, ils proposaient aussi un parcours de foi pour pouvoir, justement, je me disais, pour répondre à ma question, à ma soif de sens, ben je vais avancer. J'ai fait ce parcours-là, puis finalement, il y a vraiment eu un moment fort où est-ce que j'ai participé à un événement là, organisé par des jeunes de la communauté, l'Emmanuel, où je ne sais pas trop comment, mais je, au travers des enseignements, des temps de rencontre, d'échanges, j'ai vraiment reconnu que j'avais laissé, que Dieu était là, en fait, qui m'attendait, que je l'avais mis de côté pendant toutes ces années-là, puis qu'il m'attendait simplement, tu sais, les bras ouverts. Puis je pleurais. Fait que je suis allée au sacrement du pardon, j'ai dit au prêtre un peu que c'est ça, ce que je comprenais dans ce moment-là, puis j'ai dit, ben je demande pardon à Dieu, tu sais, de l'avoir mis de côté, puis oui, je veux faire une place dans ma vie. Puis pendant la nuit, on avait une nuit de prière, fait que j'ai vraiment dit, OK, oui, Seigneur, je te refais une place dans ma vie. Puis le lendemain, on priait l'Esprit-Saint aussi pour demander à l'Esprit de Dieu de venir nous renouveler en profondeur, de venir renouveler notre vie. Puis à ce moment-là, j'ai reçu une parole que quelqu'un a lue là, dans la Bible pour moi. C'était « Celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc, il arrive la pluie, les vents, et puis la maison, elle est solidement bâtie. Fait que ça a vraiment été le point de départ, en fait, là, d'une nouvelle vie pour moi, parce que dans cette année-là de changement, là, j'avais comme 19 ans, ouais, c'est l'année de mes 20 ans. C'est ça, tu sais, je voyais bien qu'avec mon copain, c'était un peu compliqué, puis bon, je me sentais attirée par Dieu, puis je voyais bien que j'avais quelque part une vie double un peu, parce que, tu sais, mes relations sociales, ma relation avec mon copain...
C'était pas tout à fait cohérent.
Non, c'est ça, tu sais, c'était pas cohérent. Lui, il n'y avait pas de place pour Dieu dans sa vie, puis, tu sais, on avait, c'est ça, une vie sexuelle un peu comme tous les autres jeunes de l'époque, et puis, tu sais, c'est pas tout à fait ce que l'Église non plus propose de vivre pour être cohérent avec notre être d'enfant de Dieu. Donc, je voyais bien qu'il y avait des décalages. Puis j'ai participé à un programme d'un mois qui était proposé pour les jeunes où est-ce que là, à chaque jour, c'est ça, on avait des temps de prière, on avait des temps d'enseignement, des échanges, des missions, du temps de bénévolat. Puis il y avait aussi une charte de vie qui proposait de vivre la chasteté, c'est-à-dire que c'est quoi
Qu'est-ce
au départ?
Que c'est ça,
c'est un mot qui fait peur souvent, mais c'est quoi? Tu sais, c'est juste d'avoir des relations ajustées, en fait, avec les personnes qui nous entourent. Puis selon...
C'est pas la même chose que l'abstinence.
Non, mais c'est ça exactement. La chasteté, c'est en fait l'intégration réussie de la sexualité dans la personne. C'est-à-dire que...
Tout le monde est appelé à ça.
Bien, évidemment. Mais selon le mode de vie que as, tu sais. Puis moi, à cette époque-là, ben oui, tu sais, j'étais en couple avec un gars, mais c'était pas l'homme de ma vie, tu sais. Fait que pourquoi est-ce qu'on partageait tant de choses si finalement c'était que temporaire, là? Tu sais, il y avait quelque chose qui clashait là. Puis même dans mes relations aussi avec les autres gars, je voyais bien que j'étais souvent un peu dans la recherche de plaire, en fait, le désir de voir, de trouver ma valeur finalement dans le regard des autres. Puis le fait de vivre ce programme-là, tu sais, de dire OK, oui, j'essaie de vivre ça, j'ai dit bon à mon copain, OK, on se verra pas pendant quelques semaines. Puis,
comment mais, qu'il réagit?
Il a dit fais tes affaires, là, puis après ça, on va se retrouver. Là, j'avais mon bal des finissants aussi au travers de ça. Fait que tu sais, c'était, il y avait comme une petite coupure où j'allais faire le party pendant une fin de semaine avec lui puis mes amis. Fait que bon, mais il trouvait, en tout cas, je peux pas parler à sa place, là, mais.
Non, mais j'imagine, c'est ça, il y a eu une réaction quand même. Vous êtes revus après un mois?
Oui, mais finalement, on s'est laissé. Ouais, okay. C'est ça. Finalement, on s'est laissé parce que moi, je sentais que vraiment, en fait, il y a vraiment eu un moment pendant ce mois-là où est-ce que j'ai senti qu'il y avait un mur entre Dieu et moi qui s'était enlevé, en fait. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit, ah, le plus que je cherchais la paix, la joie, je me suis dit, ah, c'est ça, tu sais. Puis c'est pas vrai que je retourne en arrière, en fait, là. Fait que je sentais que vraiment, c'était soit Dieu dans ma vie en premier, soit c'était ce gars-là, ma relation avec lui, puis fait que je pouvais pas renoncer, en fait, à la joie, à la paix, puis à cette vie-là avec Dieu, puis cet avenir-là que je sentais que ça m'ouvrait aussi, là.
Ouais. Marie-Josée, Gérard, tu as vécu ce retour-là à l'Église, mais en fait, c'est l'appropriation de la foi, ou en tout cas, tu vivais une foi pour toi qui n'était pas la foi de tes parents. Là, c'était autre chose, c'était différent. Il y a plusieurs jeunes, en tout cas, on en connaît quelques-uns, qui font ce cheminement-là, qui reviennent à l'Église, mais ils ne choisissent pas tous la vie consacrée. Il y en a qui décident de se marier, il y en a qui vont rester célibataires sans pour autant se consacrer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de t'engager dans cette voie si radicale, là? Je pèse mes mots.
Autrement dit, t'es-tu un petit peu plus folle que les
autres? Bon, merci Simon de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Quel boat te manque-t-il?
C'est ça, exactement. Il en manque 2-3 boats. Non, mais je pense vraiment que c'est fou pour de vrai de choisir ça, d'avoir cette vie-là. Absolument. Absolument. Puis, mais là où, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un point de départ où est-ce que j'ai ouvert la porte de ma vie à l'Esprit-Saint. J'ai senti un changement profond en moi, puis à partir de ce moment-là où j'ai goûté cette paix-là, cette joie-là, c'était aussi un amour de Dieu profond, en fait, là, que j'ai goûté. Puis c'est cet amour-là, en fait, qui m'a vraiment transformée dans les années qui ont suivi, là. Puis, en fait, quand j'ai laissé mon copain, moi, j'avais peur de manquer d'amour. Je me disais, tu sais, ça allait faire 4 ans qu'on allait être ensemble. Tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et célibataire! Puis, dans l'année qui a suivi, au contraire, j'ai expérimenté que plus que jamais avant dans ma vie, je me sentais aimée, mais je sentais que mon cœur était ouvert aussi.
Comment tu ressentais cet amour-là? Comment tu vivais cet amour-là si tu étais seule?
Je me levais, puis j'avais des chants de louanges, d'actions de grâce, des chants de joie, en fait, qui m'habitaient. J'étais vraiment heureuse de vivre. Puis pour moi, ça, c'est un signe de l'amour de Dieu, tu sais, d'avoir une joie comme ça qui déborde. Puis après ça, quand je parlais aussi de ce que je vivais à la paroisse avec mes amis chrétiens, de ce que je lisais dans la Bible, en fait, les gens me le disaient, ils disaient, mais voyons, tu sais, qu'est-ce qui te prend là? Parce que j'avais comme une montée de joie, tu sais. Les gens, ils disaient, mais voyons, t'es donc bien heureuse, tu sais. Puis je voyais qu'en fait, il y a quelque chose qui me dépassait, puis qui comblait mon cœur, en fait. Il y a vraiment un moment où est-ce que, tu sais, puis à travers tout ça, ben oui, j'avais des temps de prière, j'allais à la messe aussi, puis je me sentais vraiment nourrie, je me sentais en communion avec Dieu, mais je savais aussi que j'avais fait un choix, tu sais, cohérent, puis c'est ça, qu'il y avait un fil conducteur maintenant dans ma vie du sens, puis il y a vraiment un moment où c'était la Saint-Valentin, moi j'avais, ça fait déjà plusieurs Saint-Valentin, où est-ce que j'étais toujours avec quelqu'un, avec un gars dans ma vie, puis là, je fêtais ça avec une amie célibataire, avec ma sœur célibataire aussi, on s'est fait un souper, puis juste avant le souper, j'étais seule, j'attendais que mes amis arrivent, puis il y a eu un moment où je me suis dit, mais je me sens pas seule. Oui, je suis seule, mais je ne me sens pas seule, en fait. Je sens que ma solitude est à quelque part vraiment habitée. Puis, pendant la soirée, on est sorti, mon ami disait, tu sais, t'as-tu vu tel gars, il est cute, lui. Puis je me dis, oui, c'est vrai, t'as raison, mais moi, je l'avais pas vu, le gars, puis pourquoi? En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, même si j'étais célibataire, en fait, j'étais pas à la recherche d'un gars avec qui faire ma vie, en fait. Ça m'a fait prendre conscience que mon cœur était comblé, en fait. Puis que, vraiment, oui, j'étais heureuse, j'étais comblée dans cet état de vie-là, puis que peut-être j'étais appelée à continuer finalement dans ce sens-là. Puis justement, dans les mois que j'ai commencé à m'engager dans la communauté de l'Emmanuel, à la paroisse où j'étais.
T'étais plus dans la dynamique de recherche d'affection ou de séduction avec les gars en général. Tout ça, naturellement, c'était, ou surnaturellement, c'était comme dissipé sans même que tu t'en rendes compte.
Oui, mais même plus profondément que ça aussi, en fait, tu sais, je sentais que... je me sentais aimée, je me sentais comblée, puis je me disais, j'ai tout ce dont j'ai besoin, en fait. Là. J'ai pas ma vie.
Mais t'avais quand même quelqu'un dans ta vie, j'imagine.
Oui, c'est ça.
C'était exactement. Ton rebound, Jésus, dans le fond.
C'était. C'est ça, exactement.
C'était un bon rebound.
Exactement.
Tu parlais de la communauté, t'étais rendu là-dessus. Là. C'est une façon. C'est comblant aussi, c'est d'être entouré d'une communauté, de vivre toutes ces relations-là très signifiantes avec des.
Oui.
C'était pas une paroisse anonyme où les gens s'assoient le plus loin possible. les uns des autres sur les bancs d'église.
Hein? Non, c'est ça, exactement, exactement. Puis ça, je le voyais que j'avais besoin de soutien. En fait, je me disais, OK, là, je sens que j'ai besoin d'apprendre à connaître le Christ, puis aussi, j'ai besoin de moyens aussi pour vivre cette relation-là personnelle avec Dieu d'une façon concrète. Puis là, je me disais, mais comment je vais faire, moi? Fait que c'était ça le moyen aussi le plus naturel, puis celui que j'ai trouvé qui était à ma portée, c'était vraiment de m'engager dans la paroisse et dans la communauté d'Emmanuel pour vivre cette vie de foi-là avec des frères et sœurs, puis apprendre à connaître Dieu aussi, non pas seul, mais vraiment à travers d'autres, avec d'autres personnes, puis en se soutenant. Puis il y a aussi une religieuse qui était présente à la paroisse qui m'a posé la question, c'est toi la vie consacrée, t'as-tu déjà pensé à ça? Moi, non, ben non, voyons donc, jamais de la vie. Mais pourtant, en fait, je voyais que c'est ça, le fait qu'elle me pose la question, je voyais que, ah oui, c'est vrai que j'ai encore soif de plus, puis que peut-être que c'est ça, en fait, la soif de plus, c'est la soif de officiellement, vraiment, comme concrètement donner ma vie à Dieu. Fait que c'est là que j'ai commencé aussi à creuser cette question-là, de dire c'est bien beau le ressenti et tout ça, mais concrètement, là, c'est quoi la vie consacrée? Qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Fait que là, j'ai fait un parcours de discernement qui était proposé par la communauté de l'Emmanuel. J'ai eu un accompagnement aussi un certain temps avec un prêtre là, qui était de l'extérieur d'une autre communauté. Puis,
as-tu fait des expériences dans des monastères? Es-tu allé voir si c'était pas ça aussi ton appel? Parce qu'il doit venir un moment où on se dit la vie religieuse ou la vie consacrée, mais sous quelle forme? Est-ce que c'est des questions qui te sont venues?
C'est des questions qui sont venues, mais qui sont pas descendues très loin. C'est-à-dire que, en fait, je me sentais vraiment... J'ai toujours senti que ma place était vraiment là d'être dans le monde, en fait, d'être proche de monsieur, madame, tout le monde. Puis, d'ailleurs, le nom, la communauté de l'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, là. Donc, il y a quelque chose là qui m'a tout de suite rejoint dans la communauté. Puis oui, je me suis posé la question et tout ça. Puis, mais je sentais pas d'élan, au niveau des opportunités concrètes aussi, on dirait que j'étais pas capable de dire oui, je vais aller passer, tu sais, deux semaines, trois semaines ou une semaine dans telle et telle communauté. J'aurais senti que ça aurait comme été quelque chose de forcé. Fait que ce que j'ai dit, ben Seigneur, moi, je pense que ma place, c'est vraiment d'avancer dans la communauté de l'Emmanuel. C'est là, de toute façon, que je t'ai rencontré.
Ouais.
Fait que je vais continuer d'avancer là. Puis
c'est
si,
logique.
C'est ça, c'était comme simple, ça coulait de soi. Puis j'ai dit, ben Seigneur, s'il y a quelque chose, si c'est pas ça, tu vas me le montrer. Il y a quelque chose qui va m'indiquer que je suis pas heureuse. Puis tout simplement, ben je vais continuer mon chemin.
Simon,
t'es une laïque consacrée. C'est pas tout le monde qui connaît bien ça. À quoi ça ressemble ta vie, une journée? C'est pas la même chose qu'une moniale dans un monastère, là.
Non, effectivement.
Ou qu'une laïque pas consacrée aussi. C'est ça.
Aussi, en quoi c'est similaire ou différent de tout le monde?
Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai des colocs, mais qui sont en fait des sœurs de communauté, c'est-à-dire des femmes qui ont fait le même choix de vie que moi. Fait que oui, on habite dans un appartement, mais il y a une chambre de notre appartement qui est une chapelle. Fait qu'on prie ensemble le matin. On a un petit temps de louange, d'action de grâce pour commencer la journée ensemble dans la joie, en plaçant le Seigneur en premier, mais aussi au cœur de nos vies pour se soutenir aussi dans ça. Après ça, ben, je m'en vais travailler, en fait. Moi, je travaille comme intervenante là, auprès des personnes âgées en Basile de Québec. Fait que j'ai mon travail. En fait, comme consacré dans la communauté d'Emmanuel, en tout cas, chacune, on a nos occupations là, différentes. Là. Il y en a autant, il y a des médecins, des infirmières, des enseignantes, que des agents, des contrôleurs aériens ou des mathématiciennes. Il y a de tout. C'est ça, exactement. Fait que moi, c'est ça. Je travaille comme intervenante. Puis après ça, ben oui, je suis impliquée là, dans les activités de la communauté d'Emmanuel, des missions et tout ça. Mais j'ai aussi, je vais m'entraîner, je vois des amis, je sors au resto, je passe du temps avec mes neveux, avec mes frères et sœurs, je fais des randonnées. Fait que, dans le fond, le mode de vie laïque, il faut que je prépare. J'ai mon auto, il faut que j'assure aussi ma sécurité financière. Pas de ta fête, mais j'ai mon petit jardin, par exemple. Je fais un peu de jardinage. Fait que, tu sais, je suis comme responsable.
T'es pas coupé du monde ordinaire, là, pas du tout.
Non, c'est ça. Puis même, au contraire, j'habite avec quelques sœurs de communauté, tu sais, pour qu'on se soutienne, qu'on porte notre vocation ensemble. Mais le but, c'est qu'on s'aide les unes les autres aussi à vraiment être à notre place chacune dans le monde, en fait, là, à servir la société aussi, à aider ce qu'il y a de beau dans le monde à grandir. Puis, en premier, ben, d'abord à porter le Christ aussi, là, le Dieu avec nous. Ben, si quand moi je prie le matin, ben, Dieu, je le garde avec moi toute la journée, là, ou plutôt c'est lui qui me garde. C'est lui qui me garde avec lui. Mais, fait que, tu sais, quand je vais travailler, je suis habillée comme ça, les gens voient ma croix.
De porter le Christ, tu le portes tu portes une croix au cou, là, pour ceux qui ne te voient pas. T'as un habit, est-ce qu'on dit un habit ou un vêtement particulier?
Ouais, ça s'appelle une tenue commune. Commune dans le sens de un look un peu commun là, à toutes les autres femmes consacrées dans la communauté, mais commun aussi dans le sens de banal, là, dans le sens qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans.
C'est pas flamboyant.
Là, c'est ça, quotidien. Ouais.
Sans offense. Mais alors, c'est ça, tu portes, pour ceux qui ne te voient pas, là, une longue jupe bleu marine, un haut blanc et cette croix au cou discrète mais présente. Là. Ouais. Ça, c'est une façon d'être un signe dans ton milieu de travail.
Oui, puis partout, là, partout, tu sais, quand je vais prendre l'autobus, si je fais du vélo, bon, en vélo, j'avoue, j'enlève la jupe, là, je prends plutôt des pantalons de sport, mais je dirais, je garde ma croix.
Est-ce que ça suscite des questions autour de toi?
Oui, oui, oui. Des questions, parfois, justement, de l'émerveillement, puis des fois aussi quand même des réactions de ceux qui ont pu avoir des expériences négatives aussi avec l'Église, qui peuvent me raconter leur expérience. Fait que je les écoute, je les accueille, puis bon, tu sais, ça leur permet de voir aussi que on peut pas généraliser ce que certaines personnes ont fait dans l'Église à tout le monde, mais que aussi l'Église, c'est aussi vous puis moi, tout le monde qui en fait partie, puis que finalement ça vaut la peine aussi de continuer de découvrir ce qu'est réellement l'Église, en fait. Puis
est-ce que les gens sont étonnés que tu sois quand même assez jeune? Souvent, on a le préjugé que les personnes consacrées, les sœurs, c'est des gens vraiment très âgés, puis qu'il n'y en a plus des jeunes aujourd'hui.
Oui, ça arrive quand même. Ça arrive pas mal. Puis là, quand je dis que en plus, je suis dans une communauté puis une paroisse où est-ce que c'est rempli de jeunes. Les gens me disent, ben voyons donc, ça se peut pas. Je dis, eh oui, venez
Dieu
et voyez.
Dieu est surprenant.
Oui, exactement. Puis il y en a qui me disent, ah, c'est du gaspillage aussi. Bon, ils disent peut-être pas tout comme ça, mais c'est un peu ça que ça veut
certains
dire.
Certains disent
là,
ça comme ça.
Ils disent que t'es jolie dans le fond quand
ouais,
ils disent
ça.
C'est
un compliment. Exactement. Je le prends comme un compliment. Puis en même temps, je dis, ben écoute, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce que je voulais c'est ce que je pouvais faire de mieux, le mieux. De ma vie, en fait, finalement, d'accueillir cet amour-là de Dieu puis d'accepter d'en vivre à chaque jour, d'être disponible pour ça puis de le partager, finalement. Là.
Une dernière question, d'ailleurs, un peu dans la même lignée, d'être disponible. Tu dis que tu es célibataire pour le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour le royaume des cieux? Il me semble que c'est pas un peu pompeux. Là, comme...
Ou comme si tu attends juste la mort.
Ouais, non.
En fait, pour le royaume, c'est que, c'est ça, tu sais, comme chrétien, on croit que Jésus-Christ, il est venu, il s'est fait homme, il a habité parmi nous, puis il est venu dire finalement que il est venu habiter tout ce qui fait notre vie, finalement, puis il nous a permis de vivre déjà dans le cœur de Dieu, en fait. Il nous a fait une place pour qu'on puisse partager la vie même de Dieu. Puis, célibataire pour le royaume, c'est de dire que ce mystère-là de partager la vie de Dieu est tellement vrai que ça vaut la peine, tu sais, qu'on peut vivre comme célibataire en ayant une vie complète, comblée, en étant déjà dans le cœur de Dieu. Tu sais, c'est de dire que cet amour-là que dans le royaume des cieux, c'est-à-dire après notre mort, puis tu sais, à la fin des temps, tout le monde, en fait, on sera unis dans le cœur de Dieu, si on le veut bien, évidemment, mais que déjà, on peut vivre de ce mystère-là, puis célibataire pour le royaume. Tu sais, moi, je peux pas dire que je me sens complètement comblée à tous les jours, mais ce que je peux dire, c'est que déjà, je le sens que c'est ce que Dieu fait en moi, puis c'est ce que Dieu veut
faire. Que c'est possible.
Puis que c'est possible, c'est ça. Puis que le royaume de Dieu, ben, il est déjà là parmi nous, là, tu sais, finalement. Ouais.
Marie-Josée Girard, célibataire consacré de la communauté L'Emmanuel, célibataire pour le royaume des cieux.
Yes!
Merci beaucoup pour ton témoignage.
Merci Antoine.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
Simon Lessard, chroniqueur pour Le Verbe Média, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on dit parfois que les religieux font 3 vœux, un peu comme Aladdin et le génie là, dans la lampe. laisse-moi deviner, la richesse, l'amour et le pouvoir.
C'est à peu près ça Antoine, mais je pense qu'il va falloir que tu révises tes cours de théologie.
Ah ben là, non, j'ai plutôt décidé de t'inviter à l'émission pour éclairer ma lanterne, ma lampe justement.
Ouais, ben la vie religieuse, la vie consacrée... est caractérisé entre autres par 3 vœux, mais pour bien comprendre ces vœux-là, qui sont de pauvreté, chasteté et obéissance, 3 mots pas tout à fait à la mode aujourd'hui, là, il faut comprendre d'abord la première logique de la vie consacrée, qui est vraiment une vie de passionné. des gens qui sont des passionnés de Dieu, passionnés du Christ, et qui veulent vraiment le suivre d'une manière plus étroite, plus proche, se donner plus totalement à lui. Et comme dans toute passion, quand on veut faire plus de quelque chose, ben, il faut faire moins de autre chose. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, si tu es passionné de hockey, Antoine, nécessairement un passionné de hockey... il va faire moins de baseball, ouais. Peut-être même moins de d'autres projets de vie. Il va dépenser de l'argent, du temps pour pouvoir jouer au hockey, coacher le hockey, étudier les statistiques de hockey, connaître tout sur l'histoire du hockey. Bref, se consacrer sa vie au hockey. Ouais. Ben, les religieux, religieuses, moines, moniales, laïcs consacrés, ils veulent se consacrer totalement aux affaires de Dieu. Et donc... ils font certains renoncements et ces trois vœux-là sont des renoncements pour davantage de Dieu dans leur vie.
On recevait un peu plus tôt, ben, t'es encore avec nous, là, mais on discutait avec Marie-Josée Gérard, qui est une laïque consacrée. As-tu fait ces vœux-là, toi, chasteté, pauvreté, obéissance?
Mettons quelque chose qui ressemble à ça. Là, j'ai fait, en fait, nous, on appelle ça des engagements. Là, le terme vœux étant, c'est ça, plutôt un terme religieux, mais ça se ressemble. Dans le fond, j'ai quand même pris la décision de vivre dans l'esprit de des conseils évangéliques, c'est-à-dire que la pauvreté, tu sais, ça revêt un peu la forme de la simplicité de vie, finalement. Puis aussi, ultimement, quelque chose de très beau, en fait, à l'engagement définitif, un engagement qu'on prend, c'est d'accepter de se laisser appauvrir toujours plus. Fait que ça touche, oui, les biens matériels, mais d'abord tout. Aussi, c'est ça, toute la personne humaine, tout ce qu'on est, tous nos biens aussi humains, tout ce qui fait notre personne aussi. Est-ce qu'on accepte de se laisser appauvrir, de vivre un chemin d'humilité, finalement?
Marie-Josée parle de conseils évangéliques. C'est ça, les trois vœux, c'est des conseils évangéliques?
C'est lié.
C'est la même chose?
Oui. Il y a les deux, Antoine. C'est-à-dire que dans les évangiles, Jésus donne des conseils. C'est pas la même chose que les commandements. On connaît les 10 commandements ou le commandement de l'amour. Les commandements, c'est des choses qu'il faut absolument faire si on veut vivre avec Dieu.
Ouais.
C'est sine qua non. Les conseils, c'est pour ceux qui veulent une vie plus intense, plus intime. C'est de l'extra. L'extra avec ça, tu sais, ça, c'est les conseils. Puis les conseils, c'est pour tout le monde, même les gens mariés, les célibataires, consacrés ou pas.
Extra sauce sur la poutine.
Exactement. Ouais. Les religieux, c'est eux qui font un engagement, une promesse ou un vœu de suivre toute leur vie ces conseils-là, de les suivre d'une manière, disons, plus totale ou radicale.
Décortiquons.
Bon, alors tous les conseils que donne le Christ, on a tendance à les résumer sous trois grands conseils généraux. Donc, je les ai nommés tout à l'heure, pauvreté, chasteté, obéissance. Donc, le premier, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est vraiment de renoncer, je dirais, aux soucis, parce qu'il y a un souci qui vient avec les biens matériels, la possession des biens matériels, la gestion de ces choses-là. Donc, renoncer à trop de possessions de choses extérieures pour être davantage libre pour les choses spirituelles.
C'est commode là, d'avoir une voiture, une maison, un lecteur MP3, je ne sais pas, ça n'existe plus, un téléphone intelligent.
Ben, comme le disait Marie-Josée, ça ne veut pas dire d'être extrêmement pauvre dans la rue, de ne pas avoir ce qu'il faut pour manger. Ça veut dire de trouver le bon ajustement de simplicité de vie qui nous libère davantage pour les choses de Dieu. Dans certains cas, parce qu'il y a toutes sortes de formes de vie consacrées, ça va passer par la mise en commun, comme les premiers apôtres. Donc, Édouard est assomptionniste, donc il vit davantage cette mise en commun des biens. C'est pas qu'Édouard utilise jamais de voiture, mais la voiture n'est pas à son nom. Je me trompe pas, Édouard.
Oui, mais j'ajouterais quelque chose à ce propos de vœux de pauvreté. C'est que dans la vie, il n'y a que deux possibilités. Ou c'est nous qui gérons les choses, ou les choses qui nous gèrent. Ou c'est nous qui sommes en possession d'une certaine manière.
Vous ne pouvez servir deux maîtres,
c'est ça. Ou nous sommes possédés. Ouais. Et donc le vœu de pauvreté précisément dit non, c'est à l'être humain bien gérer les choses d'une manière où il n'y a pas des dépendances.
Comment ça se vit chez les assomptionnistes? Toi, comment tu vis ça, le vœu de pauvreté?
Mais premièrement, nous mettons tout en commun. Mais comme dit même la règle de Saint-Augustin, que personne ne manque de rien.
Aha.
C'est-à-dire, il y a aussi cet aspect. Il y a aussi l'aspect que nous travaillons d'une certaine manière par les différents biais, au point de vue pastoral, au point de vue de l'écriture, au point de vue, certains travaillent dans le milieu social, d'autres dans le milieu carcéral, c'est-à-dire...
Ils perçoivent un salaire, parfois.
Ils perçoivent un salaire, oui, mais salaire, arrive dans la communauté.
Au commun,
donc, mais c'est précisément pour ne pas dire que je suis mieux que les autres. Et ça me donne des droits de possession. En fait, c'est les choses qui commencent à me posséder.
Et Jésus,
c'est très difficile dans la vie réelle.
Non, mais tu permets, Simon, j'aimerais t'entendre. Qu'est-ce qui est difficile? En quoi c'est difficile?
Mais ce qui est difficile, c'est qu'en théorie, c'est très beau. Mais même les religieux, ils vont dire, je veux pour mon habit religieux, ceux qui portent l'habit, tel ou tel tissu. Je veux telle ou telle matière. Et ce n'est pas forcément toujours la plus discrète ou je ne dirais pas le mot banal.
C'est vrai pour la table aussi. Moi, j'aime bien avoir un morceau de saumon le vendredi et pas juste un filet de sole banal, pané. Congelé, décongelé.
Voilà, tout dépend dans quel moment, parce qu'il y a aussi des fêtes. Il y a aussi... En fait, le vœu de pauvreté, elle nous apprend à prendre le monde tel qu'il est, dans toute sa richesse, mais aussi dans sa différence. Tous les jours, ce n'est pas les jours de solennité et des fêtes. Mais tous les jours ne sont pas non plus les jours de maigre et du jeûne. Non, ce n'est pas vrai. Et la pauvreté, c'est précisément ajuster notre rapport aux choses.
Trouves-tu ça dur, toi, Marie-Josée? Le rapport à l'argent, à tout ça?
Dur, oui, quand même, de rester dans cette attitude-là, finalement, de toujours me questionner, parce que, veux pas, on a besoin de mille et une petites choses au quotidien, ne serait-ce que pour s'habiller comme il faut en hiver. Fait qu'entre le nécessaire, ce qui est convenable, puis ce qui est du luxe, ou ce à quoi on est attaché, parce qu'on est attaché souvent à des détails, là, tu sais, à tel et tel point de notre confort, et non pas simplement à... Bon, en tout cas, c'est un peu général, mon affaire.
Mais le fait que ça soit toujours à remettre en question, c'est ça qui est exigeant, finalement.
Oui,
c'est pas que, il y a une règle très générale, mais finalement, on doit l'appliquer dans toutes sortes de petites décisions quotidiennes, et c'est ce travail-là qui est plus ardu, c'est ce que j'entends.
Oui. Puis accepter aussi de se laisser, tu sais, dans ce que vous dites aussi, il y a le fait d'entrer dans le réel. Tu sais, j'ai un exemple bien simple. Là. J'ai acheté un pot de lait aux noisettes là, pour mettre dans le café au travail pour partager avec mes collègues. J'ai dit, c'est pour partager. Je le mets là, puis là, je vois qu'il en reste juste un fond. J'ai envie de me le garder pour mon café demain matin. J'ai dit non, je l'ai donné. C'était pour partager. Je le mets là, il disparaîtra quand
tu seras
fini. On voit bien
comment c'est pour tout le monde, cet esprit évangélique-là de pauvreté. Ça s'applique aux gens mariés,
comme
aux gens
de
qui travaillent.
Oui, exactement.
Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour tous. Et c'est une libération. Il faut toujours le comprendre, non pas comme une privation, mais une attitude qui nous donne plus de liberté pour ce qui nous rend plus heureux.
Exactement.
Les personnes, les biens spirituels, l'union à Dieu.
Un peu la même chose de la chasteté, j'imagine.
Exactement.
Simon.
Saint Thomas d'Aquin, quand il fait sa théologie de la vie consacrée, il dit, réfléchissez là, pas longtemps, vous allez voir que vous occupez d'une femme, d'un mari, des enfants, tout ce qui vient avec la famille, c'est beaucoup de soucis.
C'est de l'ouvrage.
C'est ça. Puis c'est important quand t'es marié. Mais certaines personnes font le choix pour être plus libres pour la mission, pour la prière, de ne pas avoir ce souci de la famille. Donc, le conseil évangélique de chasteté, là, ici, ce n'est pas simplement de ne pas avoir de relations sexuelles ou, comme on a parlé tout à l'heure, de la vertu de chasteté, d'avoir des relations sexuelles ajustées. C'est vraiment de se dégager des soucis, disons, qui viennent avec le mariage et la famille pour se soucier davantage des choses de Dieu, être davantage au service des choses de Dieu.
Édouard?
Mais dans ce domaine de la chasteté, c'est même un peu plus subtil parce que c'est de ne pas posséder les êtres, ne pas posséder des personnes. Parce qu'on peut de ne pas avoir de relations sexuelles, mais être des manipulateurs et des manipulatrices de la première classe qui ne sont pas chastes. Et on la voit et à l'extérieur des communautés chrétiennes, et malheureusement même pas dans certains cas à l'intérieur des communautés chrétiennes. Donc. Et le vœu de chasteté, c'est précisément dire je ne me comporterai jamais ou je ferai tout pour ne pas le faire vis-à-vis de l'autre être humain, comme vis-à-vis d'une chose qui ne sert que pour la satisfaction de mes besoins, voire de mes caprices.
Qu'il soit sexuel ou autre.
C'est
ça qui est intéressant. Très, très bon point, Édouard. Peut-être un point encore plus exigeant et plus difficile. L'obéissance.
L'obéissance, vraiment le mot le moins populaire aujourd'hui. Mais encore là, il faut bien le comprendre. Donc, de même qu'il faut se libérer du souci des biens matériels, peut-être le souci de relations liées davantage à notre corps, dans la chasteté, mais il y a le souci de soi-même. On peut être tellement soucieux de soi-même, de ses projets, de ce que je vais faire, que finalement, on n'arrive plus à se soucier de Dieu et des autres, des enfants de Dieu. Donc, l'esprit du conseil évangélique d'obéissance, c'est, dans le fond, entre dans la suite du Christ, comme des amoureux qui finalement renoncent à leur petit projet individuel, personnel, pour entrer dans un projet beaucoup plus grand qui les dépasse. Donc, tu n'auras plus à te poser trop les questions de où tu vis, qu'est-ce que tu fais. Tu te mets de manière radicale à la suite du Christ. Je suis sûr qu'Edouard...
J'allais dire, obéissance, c'est l'écoute. En fait, le premier sens du mot obéissance, c'est l'écoute. En fait, pour véritablement vivre avec quelqu'un, marié, pas marié, dans la vie religieuse, avec Dieu, il faut l'écouter. Je pense que dans nos sociétés, nous confondons le mot obéissance et soumission complètement détaché de toute servile. Non, l'obéissance, c'est tout sauf ça. Et si on voit dans l'Écriture, les gens les plus humbles et les plus obéissants, c'est Moïse dans l'Ancien Testament, la révélation pleine de Dieu en Jésus-Christ, ils passent des heures en écoute et en conversation avec Dieu. C'est-à-dire l'obéissance, ce n'est pas tu fermes ta bouche et tu ne dis plus rien. Précisément, non, tu écoutes, tu réponds, tu réécoutes, tu réponds. Et quand je dis tu réponds, pas seulement dans les paroles, mais aussi dans l'action, dans les mouvements de l'être, dans certains combats spirituels même.
Mais concrètement, ça prend la forme aussi des fois de l'obéissance à quelqu'un, un supérieur par exemple.
Tu sais que tu es obéissant le jour où tu fais quelque chose que tu n'as pas le goût.
Ben, c'est ça,
obéir. Quand tu as le goût, c'est facile l'obéissance.
Obéir quand ton supérieur te demande justement de prendre un verre de vin, c'est pas franchement.
Il faut quand même dire que dans la vie religieuse, l'obéissance supérieure, elle est applicable seulement dans ce qui concerne la règle de vie et les constitutions des instituts. Mon supérieur n'a pas à me dire à quelle longueur je vais couper mes cheveux, ni est-ce que je vais boire un verre de l'eau le matin, à midi, le soir, ou chaque 2 heures. Précisément, s'il commence à intervenir plus que la règle le prévoit, ça va être l'abus de pouvoir.
Oui, puis même nous, dans la communauté de l'Emmanuel, on utilise le mot « soumission fraternelle », en fait, comme consacré. Moi, tu sais, je partage un peu mes désirs, mes projets, ce que je vois à des responsables, puis les responsables aussi me partagent aussi, tu sais, qu'est-ce qu'ils voient, leurs propositions et tout. Puis on fait un discernement conjoint, mais tout le monde, en fait, même tous les frères et sœurs sont appelés à la soumission fraternelle. Tu sais, quand on a un petit groupe, on se rassemble, on a une maisonnée, il y a un responsable de maisonnée, bien, on est là pour écouter aussi les propositions que peut nous faire notre responsable, puis on l'écoute d'une façon particulière parce que c'est lui qui a été nommé pour être responsable. Fait qu'on est tous comme ça aussi soumis les uns aux autres, en fait. Puis c'est comme ça aussi que tous les chrétiens peuvent être appelés finalement à grandir dans l'écoute, puis aussi l'écoute plus profondément, l'écoute de Dieu, en fait, à travers ça, là, cette expérience-là. C'est de dire est-ce qu'on est vraiment centré sur notre propre volonté, nos propres désirs, ou on accepte de se laisser remettre en question, puis de réellement s'ouvrir à la voix de Dieu et à travers ça, bien, suivre le Christ, là, finalement.
Ça ne veut pas nécessairement dire que les projets personnels passent à la trappe puis se retrouvent aux poubelles. Ça veut plutôt dire qu'ils se retrouvent mieux hiérarchisés ou mieux ajustés à la volonté de Dieu.
Exactement, filtrés. Tu sais, ce qui fait en sorte qu'il y a un projet personnel qu'on peut avoir, qu'on va présenter à des frères et sœurs ou à, tu sais, moi, une responsable, disons, tu sais, qui m'accompagne, bien, elle va le questionner. On va remettre ça ensemble à la lumière de Dieu. On va écouter la parole de Dieu ensemble. On va travailler ça, on va voir. Puis finalement, ce qui va aboutir à la fin va être vraiment plus beau, plus clair, plus lumineux que qu'est-ce qui aurait été mon projet personnel au départ.
Édouard.
Mais il y a quand même une petite difficulté parce que nous sommes des humains qui vivons après ce qu'on appelle le péché originel dans la tradition occidentale, le péché ancestral dans la tradition orientale. Il ne faut pas dire qu'il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Nous savons très bien que ce sont des frères de Saint-Benoît qui ont voulu l'empoisonner. Donc le discernement, c'est aussi beau en théorie, mais de temps en temps, il faut vivre les aridités du combat spirituel, les défis des relations fraternelles, les défis aussi de détachement vis-à-vis des choses.
Simon, un dernier mot sur le...
Un dernier mot sur la vie consacrée. Je trouve que l'image, qui est très biblique d'ailleurs, du mariage, reste une des meilleures images, je pense, pour comprendre la vie consacrée. Une des grandes nouveautés du Christ, c'est de nous appeler à une relation très personnelle et intime avec Dieu. Ça existait déjà dans l'Ancien Testament, mais ça prend, je dirais, une intensité beaucoup plus grande à partir de Jésus-Christ. Et donc, c'est normal qu'à partir de Jésus-Christ, des hommes et des femmes se soient dit « je peux pratiquement me marier avec Dieu ». Et donc, je pense que les conseils évangéliques, c'est ce même esprit du mariage. On renonce à beaucoup de choses pour se donner totalement corps, cœur, bien matériel, tout à une personne parce qu'on veut une relation d'amour plus totale. Et en plus, on le fait par un engagement qui fait qu'on donne non seulement toute son être dans le présent, mais aussi tout son avenir à Dieu ou à l'autre dans le cas du mariage.
Simon Lessard, chroniqueur pour Le Verbe Média et aussi animateur du balado Les Verbomoteurs, où on fait une lecture de l'actualité chrétienne chaque semaine. Merci beaucoup.
Merci Antoine.
Édouard Chatov, père Augustin de l'Assomption, est responsable de la programmation au Centre culturel de Montmartre à Québec. Bonjour.
Bonjour Antoine.
On parle de la vie consacrée aujourd'hui, de ces radicaux là, qui font le choix de se consacrer complètement, de donner leur vie. Il n'y a pas un danger de penser que ces gens-là sont... des surhommes, des surfemmes. Moi, je vois Marie-Josée ici.
C'est
là,
ça, attention à ce que tu dis. Là.
Avec sa cape là, qui vole au vent derrière. C'est...
Mais il y a évidemment le danger, il faut avoir le souci. Mais c'est peut-être là, il faut un peu démystifier deux mots. C'est radical et on a parlé au début de notre rencontre que c'est prophétique. Donc, la vie religieuse, la vie consacrée, dans tous ces états ou dans toutes ces dimensions, elle met en évidence une chose toute simple, que tout être humain est appelé à la communion avec Dieu parce que Dieu l'aime l'être humain. Nous sommes toutes et tous appelés à vivre les conseils évangéliques pour s'accomplir comme l'image et ressemblance de Dieu, sauf que pour cela, il faut de temps en temps quelques personnes qui font signe que c'est possible. Et c'est comme ça qu'on appelle cela radicalité ou la prophétie, parce que le prophète dans la Bible, c'est celui qui rétablit quand les choses sont un peu déséquilibrées ou vont par le mauvais chemin. Et donc, la vie religieuse ou la vie consacrée, c'est le rappel permanent en quoi chaque baptisé est appelé. Dans les premiers siècles, c'était simple, c'était les martyrs. Ils ont donné toute leur vie à Jésus-Christ par la vie physique même. Mais nous ne sommes plus...
Qu'est-ce qu'il y a de plus prophétique que ça? Alors, est-ce que je donnerais ma vie si Jésus-Christ n'est pas ressuscité? Ou toutes ces histoires-là, c'est des balivernes. Oui, oui. Clairement que j'éviterais le bûcher, en tout cas, j'essaierais de l'éviter.
Exactement.
Mais là, en donnant ma vie, c'est clair qu'on ne donne pas sa vie pour des niaiseries.
Pas seulement ça. On ne donne pas seulement la vie pour les niaiseries. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un code d'une partie politique ou d'une entreprise qui fait l'argent ou qui les perd. Précisément, Jésus-Christ, c'est une relation. Nous vivons une relation et Dieu vit avec nous une relation. Et donc, on va sortir de tout cela. On peut donner sa vie précisément pour quelqu'un et pas juste au nom de quelque chose.
Et là, il y a eu les premiers martyrs dans l'histoire de l'Église, mais ça fait un temps, disons, en tout cas, il y a eu un temps plus intense, là, les trois premiers siècles de l'Église. Après, ça s'est estompé, il a fallu inventer autre chose.
Pas inventer, on a pensé comment on fait signe au monde que Jésus-Christ est le Seigneur, celui qui est ressuscité. Ce qui veut bien dire, l'ordre du monde est changé, le nouveau monde, le fameux royaume est advenu. C'est-à-dire le royaume, il n'est pas quelque part dans 90 ans. Hein? Tout dépend de la longueur de la vie de chacun ou de chacune. Non. Le royaume est déjà là, mais pas encore, mais il est déjà là. Et donc, la vie consacrée, dans toutes ses dimensions, donne cet aperçu,
ça pointe vers.
Et donc, voilà, pour cela, il y a aussi les conseils évangéliques qui s'articulent ou dans les engagements dans certains instituts, ou dans les vœux, dans les instituts ou dans les ordres monastiques et congrégations religieuses. ce qui est vrai aussi, que dès le départ, les hommes et les femmes qui ont cherché Dieu, et on les connaît plus par ces noms-là, ce sont les moines et moniales, donc qui ont tout abandonné au nom de Dieu. Et on parle, voilà, que moines et moniales, ce sont les chercheurs de Dieu parce que Dieu les a trouvés. Il faut toujours se rappeler que Dieu nous trouve les premiers, hein, et nous, après, nous mettons nous-mêmes à sa recherche. Mais le mot monos,
à l'origine
souvent,
du mot moine.
Voilà, oui. Le mot moine, oui. Très souvent était interprété comme être seul. Mais en fait, c'est une des interprétations. Être seul, oui, parce qu'on est comme un peu s'éloigner des choses par le vœu de pauvreté,
monde,
oui. Pour ne pas être prisonnier des choses, des êtres, pour ne pas être prisonnier des êtres ou de ne pas être manipulé par les autres ou de ne pas manipuler les autres. Et même aussi de nous-mêmes, parce que nous vivons très souvent dans les illusions, le vœu d'obéissance, donc écoute de l'autre. Dans la tradition juive, il y a cette parole merveilleuse, il faut toujours écouter le point de vue de l'autre, mais il ne faut jamais devenir le prisonnier du point de vue de l'autre. Il faut utiliser les choses, mais il ne faut jamais devenir prisonnier des choses. Il faut être dans l'affection ou dans la passion avec les autres, mais il ne faut jamais devenir les prisonniers des passions. Donc, mais le deuxième sens du mot « monos », c'est être unifié. En fait, celui qui parle les conseils évangéliques, et ce qui à la longue s'applique à tous les chrétiens, c'est de passer à cet être fragmenté qui dit une chose, pense une autre chose et fait encore le troisième, à un être unifié plus ou moins où il y a la cohérence. Et par les conseils évangéliques ou les vœux, précisément, chaque religieux, chaque religieuse, chaque moine, chaque monial, ils font ce chemin. Et aussi, il faut dire, ce ne sont pas des êtres parfaits. Donc, il y a des jours où nous réussissons cela. Il y a d'autres
tu
moments
m'étonnes,
où ce
Edouard,
sont...
tu n'es pas parfait.
Non. Si tu n'es pas encore aperçu, tant pis pour toi. Mais la question, il y a des jours de grandes réussites et d'actions de grâce, mais il y a aussi des chutes catastrophiques ou les échecs monumentaux où il faut vraiment se réajuster et se reprendre. Et de ne pas se décourager. Je pense aussi les moines, les moniales, religieux, religieuses, les membres de la vie consacrée. C'est peut-être un rappel permanent, c'est qu'il ne faut pas se décourager dans la vie. Il faut toujours se rappeler que notre vie est faite de haut et du bas, de combats spirituels. Et peut-être c'est ça aussi le signe un peu que cette vie fait à la société. Aujourd'hui, c'est très inquiétant que dans certaines parties du monde, on dit que presque la vie consacrée n'est pas essentielle. Ou on sait comme un peu s'apaise en disant « Ah, il n'y a pas de vocation, ben, que tout va bien, c'est quelque
c'est
chose
si grave,
qui est normal, c'est pas si grave que ça. » Non, c'est précisément que dans la tradition de l'Église était toujours affirmé. C'est assez grave parce que précisément, il y a cette... souci au signe de l'unification qui disparaît et donc on va se fragmenter de plus en plus.
Parce que moi, comme laïc, comme père de famille, je suis appelé à cette unification-là des moines dont tu parlais, mais ça m'aide de voir des gens qui sont allés à fond, puis ça m'interpelle, ça me tire vers le haut en quelque sorte.
Exactement, Antoine, je pensais à une analogie dans le monde de la musique. Tous les êtres humains peuvent aimer la musique, jouer d'un instrument, chanter, en écouter, mais c'est bon que dans la société, il y a des gens qui se consacrent totalement à la musique, à interpréter, à composer, à la diffuser, parce que nous, ensuite, ça nous aide à en faire de la musique, puis c'est des modèles, ils nous inspirent. Et donc, je trouve qu'il y a une belle analogie, ça prend des gens qui se consacrent totalement à Dieu pour nous aider, nous aussi, à orienter notre vie vers Dieu.
C'est des radicaux, les musiciens professionnels. C'est des
tout à fait. Et en plus, on dit toujours, les artistes ont du caractère.
Ils sont pauvres
les religieux aussi,
d'ailleurs.
Aussi, on a des caractères.
Faut envie de pauvreté, mais pas nécessairement de chasteté, je pense.
Donc... il faut avoir certains côtés aussi forts à quoi il faut tenir.
Tu parles du caractère parce qu'on a une idée du religieux ou de la religieuse là, qui est plutôt rangée. Hein. On parle de la règle religieuse, des ordres, hein, d'être bien ordonné, bien dans une boîte. Ce n'est pas ta conception de la vie consacrée.
Mais il faut se rappeler aussi, j'ai bien cette comparaison avec ce que Simon a dit avec la musique. Les règles servent pour les pratiques. C'est-à-dire, pour être un bon musicien, ouais. il faut jouer des gammes. Il faut faire les répétitions à l'infini. Mais quand il y a un moment de l'interprétation, c'est le caractère qui ressort. Et c'est là, je pense, pour cette raison que c'est dans les congrégations religieuses, les hommes et les femmes qui ont beaucoup pratiqué ce détachement vis-à-vis des choses, des êtres, pas désintéressement, mais précisément le liberté. Refus de l'emprise, la liberté, ils étaient capables de fonder les œuvres, c'est-à-dire interpréter l'œuvre de l'Évangile dans un contexte historique situé avec des êtres humains, dans l'éducation, dans les soins des personnes malades, dans l'accompagnement des personnes dépendantes ou de certains groupes d'âge, qui résonnent comme les grandes œuvres de musique ou les groupes populaires chez certains jusqu'aujourd'hui.
C'est formidable comme image. Merci beaucoup, Édouard Chatov. Je rappelle que tu es responsable de la programmation au Centre culturel Le Montmartre, ici à Québec. On peut visiter le site web lemontmartre.ca,
Oui, tout à fait, lemontmartre.ca.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de la vie consacrée.
Toujours un plaisir.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com.
C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, allons-y avec les suggestions culturelles. Tiens, commençons par notre invitée, Marie-Josée.
Oui, ben pour avoir d'autres témoignages là, sur la vie consacrée, une jeune religieuse française qui est très intéressante sur les réseaux sociaux pour partager à des jeunes notamment, c'est Sœur Albertine sur TikTok, sur Instagram. Elle fait des super vidéos, là, c'est à partager largement.
On mettra les liens, évidemment, sur nos réseaux sociaux pour ceux qui veulent découvrir Sœur Albertine. Vraiment une belle découverte, en effet. Merci Marie-Josée. Simon.
Alors, un très beau livre qui s'appelle « Sagesse cachée des monastères ». Ce sont 10 journalistes qui sont allés à la rencontre de 10 moines et moniales. Et c'est un livre admirablement illustré. C'est une expérience, hein, ce livre. On découvre les joies, les croix, les expériences humaines et divines de personnes consacrées en images et en texte. Donc, c'est aux éditions MAM. Je vous conseille fortement ce livre.
Merci, Simon. Merci aussi à Édouard qui était avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode dans On n'est pas du monde.